Éternel, la terre est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes prescriptions. Que fait du bien ton serviteur, Seigneur, conformément à ta parole. Enseigne-moi le bon sens, la connaissance, car je crois à tes commandements. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Tu es bon, tu es bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. Les hommes arrogants imaginent contre moi des mensonges. Moi, de tout cœur, je garde tes décrets. Leur cœur est aussi insensible que la graisse, mais moi, je fais mes délices de ta loi. Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Et le deuxième texte se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 3. 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 3. Maintenant, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et verset 9, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Est-ce que c'est ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière? Nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Jusqu'ici, nos lectures. Vous l'aurez constaté, j'ai mis tout le monde sur le même plan pour notre culte de rentrée. Petit, grand, jeune, aîné, nous avons tous droit à notre rentrée des classes. Et nous commençons tous, d'après ce que je vous ai dit, une nouvelle année d'école. On ne sait pas si ça sonne comme une bonne ou une mauvaise nouvelle pour tous les papis et les mamies, ou pour tous les parents que nous sommes qui croyons pouvoir chanter définitivement « l'école est finie ». Mais il y a une chose qui n'est pas finie pour nous, c'est que nous avons toujours et encore à apprendre. Nous avons toujours et encore à apprendre. Nous sommes et nous restons des élèves. Et c'est le sens, vous le savez certainement tous, du mot que Jésus emploie pour désigner les siens, le sens du mot « disciple ». Un disciple de Jésus, c'est un élève de Jésus, quelqu'un qui apprend de lui, quelqu'un qui se met, quelqu'un qui reste à son école à lui. Alors on considère comme acquis que les enfants, les jeunes et les jeunes ont besoin d'apprendre, ont besoin de se former. Et on suit de très près leur progrès, leur évolution scolaire, etc. Il arrive même qu'on soit exigeant, qu'on mette un peu la pression. Parce que c'est important d'apprendre. Parce que c'est un plus pour la vie. Et j'aimerais simplement, en ce culte de rentrée de ce matin, nous rappeler qu'apprendre continue à rester quelque chose d'essentiel pour nous tous dans notre vie chrétienne. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience, quels que soient nos diplômes, quelle que soit notre formation par ailleurs. C'est très important pour nous de continuer chacun à apprendre. Nous avons lu quelques extraits du psaume 119. L'homme qui a écrit ce psaume, c'est le plus long de la Bible, a de toute évidence déjà une belle expérience, une riche expérience avec Dieu. C'est évident. Et quelle est sa prière qui revient à plusieurs reprises, malgré cette expérience qu'il a déjà de Dieu? Vous l'avez lu, c'est « Apprends-moi, Seigneur ». Apprends-moi, Seigneur, instruis-moi, Seigneur, enseigne-moi. Cet homme a besoin, a faim et soif d'apprendre à vivre avec Dieu, d'apprendre à mieux vivre avec Dieu, et c'est le sens de sa prière. Ça mérite qu'on s'y arrête un petit peu. Lorsque l'on regarde le ministère de Jésus sur la terre, lorsqu'il était là parmi nous, son but a été clairement de former des disciples. Il a pris énormément de temps et d'énergie pour enseigner les siens. Alors il a certes annoncé la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour tous ceux qui s'approcheraient de lui pour être sauvés, pour être pardonnés. Et ce message-là, la proclamation de l'amour de Dieu, de son pardon, c'est un message qui, dès qu'on le reçoit profondément, personnellement, atteint son objectif. Et Jésus a pu dire, par exemple, pour quelqu'un comme Zachée, au moment où il s'ouvre à lui, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il y a là quelque chose qui est acquis, qui est donné, et c'est beau. Mais Jésus a voulu aussi aller plus loin que cela. Et son objectif a été également de former ses disciples. Il a voulu qu'ils apprennent de lui, qu'ils reçoivent son enseignement, qu'ils apprennent à vivre aussi selon ce que Jésus enseignait. Et d'ailleurs, au moment où il a quitté la terre, il a donné à ses disciples la même mission à l'égard de ceux qu'il connaîtrait, et il leur a dit, allez maintenant à votre tour et faites-vous aussi des disciples. Pas de vos disciples à vous, mais des disciples de moi, du Seigneur Jésus. Baptisez-les et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Alors lorsque nous pensons à ce qu'est un disciple, j'ai l'impression que, enfin, notre premier réflexe à partir des évangiles, et c'est juste, c'est de dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Parce que souvent, il est dit, les disciples de Jésus suivirent le Seigneur. Et quand on parle comme cela, l'idée principale, c'est de dire que le disciple, c'est celui qui imite Jésus. Celui qui reproduit ce que Jésus a fait, ce que Jésus a été. Jésus a été compatissant. Un disciple, si nous voulons être disciples, nous serons amenés à manifester aussi de la compassion envers les autres. Jésus a pardonné, nous serons invités à pardonner. Jésus a aimé, même ses ennemis, nous serons appelés à faire de même. Et nous rappelons ici les verbes que nous avons égrenés et qui sont vraiment l'exemple même de ce que Jésus a fait. Et c'est souvent comme cela que l'on pense. Et quand on pense à cela, on pense essentiellement à l'objectif, au résultat. Ce que Jésus a fait, un disciple doit le faire. Mais c'est oublier le chemin par lequel on est appelé à passer, le chemin par lequel cela est appelé à se réaliser. Parce qu'avant de faire ce que Jésus a fait, un disciple doit apprendre. Il doit apprendre. Il est à l'école de Jésus. Et si on retient ce sens du disciple comme l'élève en quelque sorte, ça nous rend attentif à cela. Un disciple, c'est quelqu'un qui non seulement fera ce que Jésus a fait, mais qui est en apprentissage avec le Seigneur Jésus. Il est attentif à ce que Jésus a dit. Il cherche à comprendre, il cherche à appliquer, à discerner ce que signifient les paroles de Jésus pour lui, pour sa vie. Être disciple, c'est donc être en situation d'apprenti. C'est Jésus le patron, c'est Jésus l'enseignant, c'est lui qui fixe le programme, c'est lui qui fixe les objectifs. Un peu comme pour ceux qui sont encore à l'école, c'est les professeurs qui décident de ce qu'on va apprendre. Ce n'est pas nous qui choisissons ici ou là ce que nous avons envie d'apprendre simplement. Ce n'est pas le disciple qui choisit ce qui l'intéresse dans le catalogue des évangiles que l'on feuillette de temps en temps, non. Être disciple, c'est être à l'école de Jésus. Et c'est accepter de l'avoir comme formateur. Mais c'est lui qui décide ce qu'il veut former en nous, la façon dont il le fait, les chemins par lesquels il nous fait passer. C'est lui qui fixe le programme de ce que nous avons à apprendre. Et c'est vrai que quand on y réfléchit à cela, il y a là une sorte d'écart par rapport à ce que nous avons, la façon dont les choses fonctionnent concrètement pour nous. Je pense que personne d'entre nous n'a reçu en début d'année le programme à suivre pour son apprentissage de vie chrétienne de cette année. Vous n'avez pas reçu un papier comme cela. Et on a souvent l'impression, quand nous lisons la Bible par exemple, pour savoir ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui choisissons, on choisit le moment où on va lire, on choisit parfois ce que nous avons à lire, on choisit le temps que l'on va donner à méditer ou à étudier. Et ça donne presque l'impression que finalement, c'est nous qui choisissons l'emploi du temps, c'est nous qui choisissons le programme. Extérieurement, d'une certaine façon, c'est juste. Il n'y a pas de contraintes, de programmes imposés comme les emplois du temps qu'on a par exemple à l'école ou au collège. Mais sur le fond, cette impression que c'est nous qui piloterions les choses, il faut la corriger. Être disciple, c'est reconnaître que Jésus est notre maître, que Jésus est notre formateur. Et je pense que dans ce sens-là, il est bien que notre prière de rentrée soit « Seigneur, que veux-tu, toi, que j'apprenne cette année ?» Si toi, tu as quelque chose à m'apprendre, qu'est-ce que toi, tu désires que j'apprenne cette année ? Enseigne-moi vraiment ce que tu veux m'apprendre et donne-moi de le vivre, donne-moi de l'intégrer vraiment. Petite remarque au passage. Jésus a voulu avoir auprès de lui des disciples, des élèves qui apprennent. Et pas simplement un groupe d'amis ou un groupe d'admirateurs qui se font plaisir en sa présence. Et être chrétien, rappelons-le aussi, ce n'est pas simplement être membre du groupe de Jésus. Des membres du groupe de Jésus qui aiment bien se réunir ensemble avec d'autres, se regonfler ensemble, partir heureux d'avoir vécu un bon moment ensemble, mais sans avoir rien appris. Être disciple de Jésus, c'est apprendre, c'est découvrir quelque chose, c'est recevoir quelque chose qui va nous changer, quelque chose que nous pourrons nous approprier dans notre vie, qui doit nous servir et nous faire avancer. Je crois qu'il est bon de nous le rappeler aussi lorsque nous pensons à ce qu'est l'Église. L'Église est le lieu où nous nous retrouvons et c'est bien d'être ensemble. J'espère qu'on le vit ce matin. Mais ce serait très très appauvrissant par rapport à ce que Jésus demande et attend, que l'Église ne soit que pour nous le groupe des amis de Jésus qui ont plaisir à se retrouver ensemble. Nous devons accepter que le Seigneur a ce projet de nous apprendre quelque chose. Et venir aussi au culte, venir aux différentes rencontres, dans les différentes occasions que nous avons d'être ensemble, avec ce désir, cette attente. Dans quel but est-ce que Jésus nous veut à son école ? Est-ce qu'il s'agit de faire de nous des grosses têtes, hein, d'accumuler connaissance sur connaissance ? Alors, la manière dont je pose la question donne l'impression qu'il faut répondre non. Mais ne répondons pas non trop vite. Que nulle part la Bible ne dénigre le fait de connaître, le fait de réfléchir, le fait de savoir bien des choses. Ce que nous savons est important parce que ce que nous savons influence ce que nous allons vivre. Et c'est pourquoi il est important de connaître, de savoir quelle est la volonté de Dieu et d'avoir de bonnes connaissances. C'est important. Moi, je suis toujours impressionné par les gens qui connaissent très bien leur domaine. Bon, un exemple, un bon bricoleur, par exemple. Il saura très vite dire, parce qu'il connaît sa partie, dans quelque chose qui semble complètement chaotique, une chambre, on ne voit pas ce qu'on peut faire. Ah, on peut faire ceci, on peut faire cela. Là, il ne faut pas, ça serait dangereux. Ça ne marche pas. Parce qu'il connaît sa partie, il peut trouver des solutions à des problèmes qui pour d'autres, sont complètement devant lesquels on panique totalement. Il peut empêcher certains désastres aussi. Il peut permettre de se lancer dans des projets, de faire des bons choix. Il faut connaître sa partie pour pouvoir bien agir. Et c'est pareil, hein, si vous confiez votre ordinateur à quelqu'un, il vaut mieux avoir quelqu'un qui soit compétent, qui connaisse sa partie. Hein. Si vous demandez un conseil juridique à quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse sa partie. Si vous remettez vos vies entre les mains d'un médecin, il vaut mieux qu'il connaisse sa partie aussi. Vous voyez, on ne peut pas négliger la connaissance. C'est ce qui nous permet d'agir, de bien agir. Et c'est vrai aussi pour notre foi. Nous avons besoin de connaître ce que Dieu attend de nous. Nous avons besoin de pouvoir discerner aussi qui est Dieu, de savoir lorsqu'il nous demande quelque chose, quel est son état d'esprit, comment nous pouvons recevoir ça, ce qu'il nous demande. Lorsque nous vivons quelque chose, il est important d'avoir des repères pour savoir ce que Dieu est pour nous. Lorsqu'on a un passage difficile, il est important de savoir comment nous pouvons compter sur Dieu, ce que Dieu nous dit. Tant de moments où nous avons besoin de connaître, d'avoir une bonne réserve de connaissances pour pouvoir bien agir, pour espérer en lui, pour lui être fidèle, pour attendre son secours. Et tout cela va changer énormément de choses dans notre vie. Donc il nous faut apprendre, nous avons besoin de bien connaître et la parole de Dieu, l'assimiler véritablement. Savoir donc, c'est important. Il nous faut apprendre pour toujours mieux savoir. Mais savoir ne suffit pas. Il nous faudra aussi découvrir comment nous pouvons utiliser ce que nous savons, comment le mettre en pratique. Jésus a dit, si vous savez ces choses que je vous enseigne, vous êtes heureux. Mais vous êtes heureux, dit-il, pourvu que vous les pratiquiez. Et le but de Jésus, lorsqu'il veut nous former, faire de nous ses disciples, c'est d'aller jusque-là. Il ne veut pas des disciples qui soient simplement des grossettes, qui savent simplement beaucoup de choses, mais il veut vraiment que ce qu'il nous a enseigné puisse passer dans notre vie, puisse enrichir notre vie, puisse changer notre vie. Et que fort de son enseignement, nous puissions mieux vivre, faire de bons choix. Et ça, c'est vraiment un programme à long terme. Et c'est vrai qu'il faut parfois du temps pour cela, pour acquérir une pratique. Il y a des choses qu'on n'a jamais fini d'apprendre parce qu'il faut toujours à nouveau les remettre en œuvre sur le chantier en face des situations nouvelles. Nous sommes là en situation d'apprentissage constant. Ce qui est intéressant et encourageant, quand on regarde la façon dont Jésus s'y est pris avec ses disciples, c'est de voir qu'il a vraiment eu le souci de les former et pas juste de leur transmettre un savoir. Il les a enseignés, mais il les a aussi lancés sur le terrain pour leur apprendre concrètement à vivre avec lui. Il leur a donné un exemple vivant. Il a pris du temps avec eux. Ils ont échangé. Les disciples ont eu le droit d'essayer. Ils ont été corrigés. Jésus leur a fait confiance, leur a confié des missions. Vraiment, Jésus a été un formateur qui accompagne. Quand on lit les évangiles, on voit cela très clairement. Et ce qu'on constate, c'est que les disciples n'ont pas tout de suite été des champions. Ils n'ont pas tout de suite été des champions. Personne, d'ailleurs, n'est tout de suite un champion. Ils n'ont pas tout réussi du premier coup. Et personne ne réussit du premier coup, toujours. Pierre, souvent, s'est trompé. Pierre, souvent, est allé trop vite, a parlé trop vite, a agi un petit peu sur l'impulsion d'un moment, a parlé un peu à côté. Et quand on lit cela, il nous arrive de montrer du doigt le pauvre disciple qui n'était pas si brillant que cela. Ce n'est pas dans ce sens-là que cela nous est rapporté dans les évangiles. Pourquoi nous est-il rapporté que les disciples ont eu leurs hésitations, leurs manquements, etc. C'est justement parce que l'évangile voulait nous montrer que nous tous qui sommes en apprentissage, nous avons le droit d'apprendre. Et avoir le droit d'apprendre, ça veut dire aussi parfois avoir le droit de se tromper, de pas y arriver du premier coup. Hein ? Un apprenti est quelqu'un qui a le droit de s'y reprendre à plusieurs reprises par moment. Il faut faire des expériences, il faut s'ajuster pour découvrir petit à petit son métier, un savoir-faire. Et Jésus a été pour ses disciples, et il veut être aussi pour nous, un maître qui accompagne, un maître qui laisse du temps pour apprendre, qui laisse du temps pour faire ses preuves, qui permet qu'il ne dramatise pas si on n'arrive pas tout de suite à tout faire de manière magnifique, et qui est toujours prêt plutôt à nous apprendre et à nous encourager, si on cherche à faire le bien, que de relever le petit détail qui n'a pas marché. Je crois que c'est ce que nous enseigne les évangiles et l'exemple de Jésus. Et c'est encourageant pour nous de pouvoir compter sur lui. Mais en face, si nous reconnaissons cela comme une chance de pouvoir avoir le droit d'apprendre et de progresser petit à petit, il nous appartient de chercher à être de bons apprentis. Hein, pour devenir par exemple menuisier, un apprenti doit acquérir un certain nombre de connaissances. Hein. Il faut d'abord qu'il apprenne un certain nombre d'éléments théoriques. Il faut aussi qu'il s'exerce ensuite, qu'il aille vraiment à l'atelier, hein, qu'il mette en pratique ce qu'il a entendu, qu'il ose se lancer, affronter peut-être des machines qui font peur, qui font du bruit au début, qu'on n'est pas sûr de pouvoir maîtriser. Il faut aussi apprendre à suivre des plans qui sont donnés. Il faut vérifier si ce qu'on a fait correspond à ce qui a été demandé. Il faut être attentif quand quelqu'un d'expérience montre que ce qu'il faut faire, comment présenter une pièce, ou que lorsque quelqu'un qui a d'expérience corrige. Il faut aussi être prudent la première fois quand on essaye de se servir d'une machine. Il faut être patient pour apprendre à bien utiliser chacun de ces outils, les connaître de mieux en mieux. Il faut être prêt à recommencer aussi quand ça n'a pas marché du premier coup. Il faut tenir compte aussi de toutes les réalités. Hein, un menuisier, il faut tenir compte d'un bois qui est parfois indur, qui résiste, ou trop fragile, une pièce qui casse. Il faut faire la part des choses entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Vous voyez, cet apprentissage-là, c'est ce que nous sommes invités aussi à faire dans notre vie chrétienne. Apprendre, c'est savoir se lancer. C'est oser, c'est vouloir. Mais c'est aussi être à l'écoute, être persévérant. Et Jésus nous invite à le faire. Alors, bienvenue à tous ceux qui ont envie de continuer à apprendre à marcher avec le Seigneur, à apprendre à mieux vivre avec Dieu. Qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit déjà expérimenté, moins expérimenté, il y a une place pour chacun de nous. Dernière remarque, on dit parfois qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et c'est vrai d'une certaine façon qu'on n'a jamais fini d'apprendre, surtout quand il s'agit d'appliquer ce que l'on sait. Nous avons tout à l'heure parlé de ces verbes qu'il faut toujours et encore apprendre à conjuguer, à mettre en pratique. Hein. Aimer, qui peut dire « maintenant j'ai appris à aimer mon prochain, c'est réglé, je sais ce que ça veut dire ». Qui peut dire ça? Personne ne peut dire, on n'a jamais fini d'apprendre à aimer. L'amour du prochain, ça ne fonctionne pas comme ça, en disant « je sais comment faire, j'ai fait, c'est bon ». À chaque fois, en face de chaque situation nouvelle, il nous faut découvrir de manière neuve ce que cela veut dire d'aimer. Découvrir la bonne manière de faire et s'investir de nouveau dans ce sens-là. On n'a donc jamais fini d'être à l'école de l'amour du prochain. Ce qui fait aussi, me semble-t-il, qu'on ne s'y ennuie pas. Hein, c'est toujours neuf, il y a toujours autre chose à découvrir. Et ce qui vaut pour aimer, vaut pour d'autres attitudes. Pardonner, on n'a jamais appris définitivement à pardonner, il faut le reprendre sur soi. Grandir, c'est pareil. Affronter, c'est pas parce qu'on a affronté une fois les choses qu'on pourra toujours tout affronter en disant maintenant je sais comment faire. Il faut chaque fois s'y remettre. Tenir bon, c'est pas parce qu'une fois on a résisté à la tentation que ça y est, c'est bon, c'est une affaire réglée. Espérer, il faut souvent espérer et se relancer dans l'espérance. On n'a jamais fini d'apprendre ces verbes, il nous faut toujours les remettre sur le métier. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, est-ce que ça veut dire qu'on en est toujours au même point et qu'on est toujours condamné à être une sorte un novice dans tous ces domaines? Je crois que non. Vous avez vu ce que Paul dit aux chrétiens de Thessalonique? Il leur dit « Vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu ». Il dit même « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive sur l'amour fraternel parce que vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres ». Et je trouve que c'est intéressant de voir que Paul constate ici que les chrétiens de Thessalonique ont appris quelque chose. Ils ont acquis quelque chose. Ils ne sont plus au même niveau maintenant qu'avant. Et ça, c'est aussi un fait. Mais Paul a soin de leur dire, à chaque fois qu'il constate ce progrès, il dit « Vous avez appris, oui, mais nous vous encourageons à progresser encore ». Autrement dit, vous avez appris, mais il reste à apprendre. Vous avez appris, mais d'autres situations vont se présenter. Et il faudra trouver la façon de les affronter. Vous avez appris, mais il faut entretenir aussi ce que vous avez appris et pour que cela vous permette d'aller plus loin. Et je trouve que cet équilibre est remarquable. Cet équilibre est remarquable parce que la Bible ne nous dit pas « tu en restes toujours au même point ». Tu seras toujours un novice, tu es toujours un petit bébé dans la foi, etc. Non, la Bible nous dit quand même que c'est vrai. Lorsque nous marchons fidèlement avec Dieu, lorsque nous nous mettons à l'école du Seigneur, des choses se construisent en nous. Nous apprenons vraiment des choses. On n'a jamais fini d'aimer, c'est vrai, mais on n'en reste pas au même point dans notre capacité d'aimer. Et la pratique de l'amour permet des apprentissages et des projets. On n'a jamais fini d'affronter des situations. C'est toujours exigeant quand on est devant quelque chose d'un peu difficile qu'il faut affronter avec courage. Mais si on a pris l'habitude d'affronter courageusement avec l'aide du Seigneur d'autres situations passées, on sera un peu plus fort et plus en paix pour affronter de nouvelles situations qui vont se présenter. On n'a jamais fini d'apprendre à tenir bon face à la tentation ou face à l'adversité. Il ne faut jamais penser qu'on est arrivé. Et pourtant, ce que l'on a déjà vécu, les délivrances, les soutiens du Seigneur, son pardon aussi, c'est ce qui doit nous donner plus de force pour affronter les choses auxquelles il faut résister. Il y a donc place pour apprendre toujours, oui, mais il y a aussi place pour acquérir un certain nombre de capacités qui vont être utiles pour grandir et pour mieux conduire notre vie. Il y a place pour progresser, mais il y a place aussi pour se réjouir des progrès accomplis. Et le Seigneur veut aussi nous encourager parfois en nous aidant à voir, en effet, qu'il nous a permis d'apprendre des choses, de progresser. Il y a place pour se réjouir des progrès accomplis et pour s'approfondir encore. Apprendre à l'école du Seigneur, c'est une bonne dynamique. Alors j'espère que pendant cette année qui s'ouvre, nous allons tous apprendre encore dans notre vie personnelle à bien marcher avec le Seigneur, dans notre vie d'église aussi, à entrer dans ce que Dieu prépare pour nous, à aller vers des progrès nouveaux, vers des découvertes nouvelles, à nous encourager aussi les uns les autres à progresser et vraiment en pouvant marcher ainsi dans les voies du Seigneur. En tout cas, il en est un sur lequel nous pourrons toujours compter. Il nous accompagnera. C'est le Seigneur Jésus. Il est notre ami fidèle et tendre qui est toujours prêt à nous apprendre à vivre avec lui, à nous apprendre à vaincre avec lui. Il ne nous fera jamais défaut. Gardons cette perspective pour cette rentrée qui s'ouvre devant nous. Amen. Je voudrais vous inviter à chanter ensemble ce cantique que je viens de citer tout à l'heure. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. C'est vraiment avec lui que nous voulons envisager cette rentrée, cette année nouvelle. Et c'est bien de pouvoir le faire en comptant sur sa fidélité et sur son amitié. Levons-nous pour chanter les quatre strophes du cantique numéro 150.